La paysannerie italienne, c'est une réalité historique qui a fini. Ça n'existe plus, en fait. Mais ça a existé pendant un moment. Ça a eu une réalité historique donnée. Et il y a un homme qui a eu une passion pour les paysans piémontais en tant qu'ils disparaissaient. Et il a consacré toute une partie de sa vie et de son énergie, qui était d'ailleurs une énergie assez forte, à enregistrer la fin de la paysannerie italienne. Cet homme, il s'appelle Nuto Revelli, il était piémontais, et il a fait un certain nombre de choses, de récoltes, en fait, de lettres, de paroles, et il a notamment enregistré énormément de gens d'un certain nombre de vallées du Piémont dans les années 70. Fin des années 60, tout le long des années 70, avec une équipe, hein, il n'était pas tout seul, c'était un travail énorme. Et il a d'abord enregistré, il allait dans les fermes, il rencontrait les gens, il posait un magnéto sur la table et il posait des questions. Ça pouvait durer 4 heures, ça pouvait durer 8 heures, et il a comme ça récolté un nombre d'entretiens phénoménal. Et donc cet homme, Nuto Revelli, qui a d'abord rencontré la paysannerie italienne quand il est parti comme officier sur le front russe, et là il a vu en fait le massacre de la paysannerie italienne. C'est un des moments où vraiment ça a pris en fait cette espèce d'amour qui va durer toute sa vie pour cette classe sociale, parce que s'il y a une classe sociale, c'est la paysannerie, au sens fort du mot classe. Nuto Revelli va s'apercevoir que quand il va dans les fermes, dans les cuisines piémontaises, les seules femmes qu'il arrive à entendre, c'est les veuves. Et sinon, le reste du temps, c'est les hommes qui parlent. Et les femmes, elles sont dans un coin de la cuisine. Du coup, il va prendre la décision petit à petit d'enregistrer des entretiens avec des hommes et, par ailleurs, de faire des enregistrements avec les femmes. Dans un premier temps, ça va donner lieu à un recueil d'entretiens qui s'appelle « Il mondo dei vinti », « Le monde des vaincus », qui est paru en Italie dans les années 70 et qui va faire l'objet qui va avoir un succès incroyable et qui va être traduit dans la foulée en français chez Maspero à la fin des années 70. Suite à ce dont il s'est rendu compte sur la place des femmes dans ce monde extrêmement patriarcal, très particulier, on est en présence de paysans qui sont nés à la fin du 19e, au début du 20e siècle, il va faire un autre recueil d'entretien avec des femmes qui s'appelle l'anello forte, l'anneau fort, le maillon fort, on pourrait dire, ou l'alliance forte. Et ce recueil, il paraît quelques années plus tard en Italie chez Einaudi. Et en revanche, celui-là n'a jamais été traduit en français. Le recueil, l'anello forte, est épuisé aujourd'hui en italien et il n'a jamais donc été lu en français. Alors nous, à Revue Incise, on est des copains de Radio DU, on est des amis du T2G de Gennevilliers. C'est une revue qui n'est pas une revue de théâtre, c'est une revue au théâtre, on pourrait dire. Comme il y a des villes qui sont à la mer, nous, on est une revue au théâtre. Et dans le numéro 5 de Revue 1-6 et le numéro 6, on a traduit pour la première fois en français un certain nombre d'entretiens en fait, de ces femmes piémontaises. Et on est trois ce soir à avoir eu envie de vous présenter, enfin de donner voix en fait, à ces femmes et de vous faire entendre leur vie, qui vit d'avant la classe moyenne, d'avant l'invention de la culture, vie de ce qu'on pourrait qualifier après coup de populaire. Constance Clore, qui est poète et écrivain, Sarah El-Dakash, qui est philosophe et qui a participé à la traduction dans Revue Incise 6, et moi-même, Diane Scott, qui suis psychanalyste et critique et rédactrice en chef de Revue Incise.
Alors, Giuseppina, qui est née en 1922, et l'entretien a été réalisé en mars 1979. On était 16 dans la famille, grand-père et grand-mère, la tante Francesca, l'oncle Battista et sa femme, mon père et ma mère et 9 enfants. On possédait 3 journées de terrain et un petit coin de bosquet, 2 vaches dans l'étable, mais mon père et mon oncle Baptiste étaient bialérais. Ils s'occupaient de l'entretien du canal Roero. Et puis, ils étaient pêcheurs de métier, de bons pêcheurs. Pour manger, on mangeait. Le matin, polenta au lait, ou polenta vunta, la polenta grasse. On passait sur la polenta bouillante un petit morceau de beurre. Et grand-mère nous disait toujours, « Passez-le rapidement, le beurre, sinon il va trop fondre. » Il y avait un autre plat, il riz in person, le riz en prison. Une poignée de riz et une poignée de farine de blé, qui rendait la soupe un peu épaisse. Car du riz, il y en avait peu. Le riz coûtait cher. Le riz en prison, avec des châtaignes, c'était un bon plat aussi. Ou sinon, riz au lait et haricots. Les petits, les brouas, bouillis, qu'on appelait madamine. Une fois par mois, on avait les cuillettes, les gnocchi aux pommes de terre et à la farine de blé. Et c'était une grande fête. Grand-mère tenait la louche. C'était elle qui préparait à manger. Ou sinon, tante Francesca. Tous les autres, hommes et femmes, étaient toujours dans les champs à travailler. Presque tous les matins, grand-mère allait à pied jusqu'à Cuneo pour vendre les poissons, les truites, les timu, les ombres, les bottes et les gobies à l'auberge. Tre citroni o superga. Elle marchait le long de la berge de la Stura jusqu'aux basses plaines de Sant'Anna. Nos hommes gagnaient de l'argent avec la pêche, et puis en travaillant au canal et en cherchant du travail par-ci par-là. Grand-mère gardait l'argent de tous, les petites pièces, et les mettait dans un toupinette, un petit pot en terre cuite, pour que personne ne puisse les prendre. Père et mère n'avaient pas un sou. C'était grand-mère qui prenait tout. Elle était analphabète. Elle pouvait seulement signer d'une croix. Mais elle était vaillante. Elle avait de l'énergie. Pour commander, c'était Parsé, grand-père. Mais l'argent, c'était grand-mère qui le gardait. Ah, on en faisait des économies. Il y avait une petite lampe à huile et grand-mère tournait toujours autour pour s'assurer que l'ouate ne brûle pas trop d'huile, que la flamme ne devienne pas trop grande. Et les cartables pour l'école. Lorsque les pantalons des hommes tombaient en lambeaux, les mères coupaient l'arrière de la jambe, du genou vers le bas. Avec ce morceau de tissu, elles cousaient une petite sacoche. Et voilà, le cartable était prêt. Comment pouvons-nous acheter 9 cartables en carton ? Les histoires. Ah, on nous en racontait des histoires quand on était petits. On nous racontait toutes sortes de petites choses, de petites histoires, pour nous faire tenir tranquilles. Grand-mère était gentille et patiente. Elle était vieille comme Matouza. Et pour nous voir tranquilles, elle nous chantait même des chansons. À chaque fois, elle nous chantait. « Jirumeta, descends. Descends dans la plaine. Laisse tomber les châtaignes. Va manger le pain blanc. » Elle tissait la laine et nous, tous les 9, autour d'elle. Dans l'étable, il y avait un grand lit fait de planches. On s'allongeait sur la paillasse avec les chiens de chasse couchés à nos côtés et grand-mère qui nous en racontait tant qu'on ne s'était pas endormi. Voici l'histoire de Petite Minine. Il y avait une femme et un homme, plutôt âgés, qui n'avaient pas d'enfants. Et la femme pleurait tout le temps. Un beau jour, une pauvre femme passe par là et lui dit « Ne pleure pas. Je vais t'enseigner comment avoir des enfants. Moi, je sais. Ce soir, après les vêpres, avant d'aller te coucher, prends une bonne foudilla, une bonne poignée de lentilles, éparpillées par-ci et par-là. Lorsque tu te réveilleras au matin, tu trouveras plusieurs fiettes et fillettes, des gamins et des gamines. » Elle écoute le conseil de la pauvre femme et le lendemain matin, comme elle ouvre la porte de l'étable, elle se retrouve face à une fourmilière de gamins et de gamines. Il y en avait de tous les côtés et il criait « Maman, moi j'ai faim. Maman, j'ai soif. J'ai envie de faire pipi. Il m'a tapé. J'ai mal ici. J'ai mal là. » Alors cette femme, qui était habituée à vivre tranquillement, prend un balai et chasse tous les enfants dans la paillasse. Seule Petite Minine, qui était le plus petit et le plus rusé, arrive à s'échapper. en se glissant dans le trou de la serrure. « Ah, cette fois, je suis libre », pensa-t-elle. « Je suis une femme et je veux me préparer les quiete, les gnocchis de pommes de terre et farine de blé. » Elle va dans la cuisine, les prépare, puis dit à voix haute, « Tiens, je les ai tous tués. Si j'en avais gardé au moins un, maintenant il pourrait apporter les quiete à mon homme, qui travaille dans les champs. » Petit Minin entend. Il sort du trou de la serrure et la femme lui dit, « Ah, bravo, bravo. Es-tu capable d'apporter les quiete à ton père qui se trouve en bas, au bord de la stoule à faire le foin ?»« Ah oui, oui, j'en suis capable. » Petite Minine part avec il Perulette, la petite marmite, remplie de quiete. Arrive à la stoule, son père mange les quiete, puis lui rend la marmite vide et lui recommande de retourner rapidement à la maison. Mais pendant que Petite Minine rentre à la maison, le long de la route, il rencontre un obstacle, une vache à pisser. Elle avait fait un petit ruisseau et il n'arrivait pas à passer de l'autre côté. Il était là, en larmes, lorsqu'un sorcière arrive et lui dit « Ah, Petite Minine, donne-moi la main que je t'aide. » Petite Minine lui tend la main. Le sorcier l'attrape, le jette dans le panier et l'emporte dans sa maison. Il l'enferme dans la porcherie et recommande à sa femme de lui donner à manger. Quand il sera bien gras, on le mangera. Mais la femme du sorcier a de la pitié envers Petite Minine. Elle lui apporte à manger et lui donne des conseils. Elle lui dit, « Prends ce clou. Tous les soirs, le sorcier te rendra visite. Et pour savoir si tu es déjà gras, il te demandera de lui tendre un doigt. Toi, au lieu du doigt, tends-lui le clou. » Tous les soirs, le sorcier va à la porcherie. Petite Minine lui tend le clou. « Ah, t'es encore tout sec, » dit le sorcier, et les jours passent. Un triste soir, Petite Minine se trompe, et là, à la place du clou, il lui tend le doigt. « Ah, voilà, tu es déjà bien gras. Préparons vite la casserole et mangeons-le. » Et ainsi, Petite Minine fut manger bouilli. Il a fait une mauvaise faim. Et cette autre histoire. Plusieurs histoires de grand-mère commençaient comme ça. Il y avait une fois un père et une mère. Et cette histoire aussi parle d'un père et d'une mère. Lui était parti à la chasse et avait attrapé un moineau. Il retourne à la maison et dit à sa femme, « Je veux que tu cuisines ce moineau pour le déjeuner. » Alors, elle l'a déplumé, la stripa, lui a enlevé les intestins et l'a mis à cuire dans la casserole. Mais le moineau était tellement délicieux qu'elle le goûtait tout le temps. Une fois, elle en mangeait une pâte, une autre fois, elle mangeait l'aile, puis elle a mangé tout entier. « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant, l'homme est de retour et la casserole est vide. » Dans le berceau se trouvait un beau gamin tout gras. « Ah tiens, je vais le tuer, le mettre dans la casserole, et quand l'homme sera de retour, je lui dirai que c'est le moineau. » Elle tue en hâte le gamin et le met à cuire. L'homme arrive et elle lui donne le petit gamin à la place du moineau. « Ah, comme c'est bon !» s'exclame l'homme, en mangeant et en jetant par terre les petits osselets. Cet homme et cette femme avaient aussi une fille, et la fille ramassait tous les osselets du petit frère et les mettait de côté. Dès que l'homme finit de manger, une voix s'élève des osselets. « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma petite sœur a ramassé mes osselets, et moi, je suis devenue un bel angelet. »
Moi, je vais vous lire les paroles de Rosa, qui est née en 1902 et dont l'entretien a été réalisé en août 1978. C'est le médecin de Stroppo, le docteur Balocco, après qu'une femme d'Elva avait eu une hémorragie et était morte, qui m'avait appris. Il m'avait dit « Lancez-vous. Si j'arrive à temps, j'arrive, ben, sinon... » Il y avait 4 ou 5 heures de Stroppo à Elva. Le chemin était étroit et puis le docteur était toujours en tournée à Canosio, à Prete, à Marmora. Avec la neige dans la vallée, il y avait des avalanches et c'était dangereux. Je ne vous dis pas le nombre d'accouchements, mais j'en ai fait tellement. Oui, oui, j'étais autorisée par le médecin et les gendarmes aussi étaient au courant. J'avais du courage et une grande expérience. J'avais une habileté, je me sentais vraiment capable de sauver, par exemple, cette personne et je me lançais. Je n'ai jamais voulu un seul sou. Moi, quand un enfant naissait, je l'embrassais, puis je le lavais avec de l'eau chaude. Je lui mettais la chemisette et je le fausavo, je l'emmaillotais. Puis je le mettais dans le berceau. Ensuite, je m'occupais de la mère, tranquillement, pour qu'elle soit bien aussi. Je m'assurais que la mère était bien avant de partir. Oh, beaucoup avaient l'hémorragie. Moi, je savais les remettre bien, je savais tamponner avec un peu de coton, je savais. En somme, je me débrouillais très bien. Et je n'ai aucun remords d'avoir fait ce métier-là. Ce n'est même pas un métier, c'est une œuvre au service d'un paese. Il y avait aussi les accouchements difficiles. Une fois, il y avait une femme petite, menue, qui a beaucoup souffert. L'enfant ne descendait pas, la première partie ne venait pas. Quand on parle des accouchements dans ces entretiens piémontais des années 1920-1930, la prima parte, c'est l'enfant, et la seconda parte, et la deuxième partie, c'est le placenta. L'eau ne venait pas, alors elle avait des contractions et elle n'arrivait pas à accoucher. Et puis tout à coup, ça a éclaté. Oh, c'était des cas pénibles, hein. Une autre enfant était venue avec le cul, comme ça, et on ne voyait rien venir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'était même plus temps d'aller chercher le docteur ou la sage-femme. J'ai un peu aidé la mère, je poussais sur ses reins, et la petite est sortie. Elle est déjà mariée maintenant, cette petite. Et le premier accouchement de jumeaux, je n'en avais jamais vu. La femme avait des contractions importantes. Ce qui s'est présenté d'abord, c'était un pied et une main. Moi, à cette époque, je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Alors j'ai dit, dans ce cas, je ne me sens pas capable de travailler. Allez donc chercher le médecin. Le médecin est venu avec les fers. Il a attrapé le bébé qui a juste poussé un cri et puis il est mort. L'autre, en revanche, est bien arrivé et c'est déjà un homme maintenant. Cette mère, 2 ans plus tard, a pu avoir 2 autres jumeaux. Une femme avait accouché avec sa belle-mère qui l'assistait là-haut, dans une cabane, aux alentours du Colle. La belle-mère, qui en avait eu 6, était donc assez expérimentée. Mais elle ne savait pas enlever la seconda parte, la deuxième partie. Et elle l'a laissée dedans 2 jours. Oh, ça va venir, ça va venir, elle pensait. Et cette pauvre femme était gonflée, elle faisait déjà l'infection. C'est moi qui l'ai sauvée. Avec un peu de vaseline borique et très doucement, j'hésitais quand même un peu, je lui ai donné 4-5 tours, puis j'ai jeté un peu d'eau à l'intérieur, d'eau tiède, comme ça, très doucement. J'ai enlevé la seconda parte. Celle-là, c'est moi qui l'ai sauvée, sinon elle mourrait. Ah! Des familles nombreuses, il y en avait beaucoup, des familles de 10. Une femme en a eu 15. Tous les ans, elle en avait. Elle accouchait et elle en couvait déjà un autre. Ben, ces femmes prenaient les enfants quand ils venaient. Elles faisaient les choses normalement. Les minailles, les enfants, s'ils sont en bonne santé, ce n'est pas si fatigant de les élever. Polenta et panada, soupe de pain. Beaucoup de putia de smoula, de bouillie de semoule. Autrefois, il y avait de bonnes mères. Elles donnaient le lait au sein. Maintenant, au contraire, elles donnent n'importe quoi. Est-ce que ça n'était pas de l'amour d'élever les enfants au naturel? Les hommes n'assistaient jamais aux accouchements. Moi, je ne les voulais pas, je les chassais. Allez, 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 on se débrouille. Les pères étaient contents si c'était un fils. Si c'était une petite, ils faisaient comme ça. Brrr, c'est juste une femelle. Si au contraire c'était un mâle, pour l'amour du ciel, ils disaient « Ah, ça me fait plaisir, tu m'as fait plaisir ». Les femmes accouchaient dans les tables, sur la paille, et en dessous, elles avaient un drap propre. Et j'en ai eu deux des miens, toutes seules. Moi, toute seule, avec mon mari. Lui, il avait de l'expérience. Lui, il m'aidait, il n'avait pas peur. En septembre 1940, mon mari était sous les drapeaux. Lui, il est de 1897. Et il l'avait quand même encore appelé. J'attendais un bébé. Je travaillais comme une mule. Je portais le fumier, je chargeais et déchargeais le foin. Le 28 septembre, pendant que je travaillais, j'ai attrapé les contractions. Alors je me suis dit, moi, ce soir, je me mange encore une assiette de tagliatelle et puis je fais le travail, je m'arrange toute seule. Je pensais, si seulement le Seigneur me donnait mon mari. Et à ce moment-là, on me dit, « Ah, il y a un militaire qui vient d'arriver. » Et c'était mon homme. « Viens tout seul avec moi », je lui ai dit. Moi, j'avais déjà préparé le lit. Et lui et moi, nous avons eu la petite. Lui, il a saisi la petite. Moi, je lui disais quoi faire. Attrape les ciseaux, coupe le cordon. C'était une belle petite. La seconda part, je la tenais d'une main, je l'ai enlevée moi-même, tellement bien. J'en avais déjà eu cinq des miens, j'en avais déjà aidé tellement d'autres à naître. J'avais de l'expérience, moi. Et il te le faisait mettre de force, le courage, si tu ne l'avais pas. J'ai eu cette petite le mardi à 11h du soir et l'après-midi du mercredi. Beaucoup de soldats sont arrivés à Elva. Nous étions des paysans, mais nous avions aussi l'auberge. Et alors je me suis levée et je suis allée travailler. L'auberge était pleine de soldats. Il y avait un lieutenant de Dronero, il s'appelait Ritatore, et moi je le connaissais. Je lui ai dit, écoutez, Ritatore, faites-moi la gentillesse. Moi, j'ai eu une petite hier soir à 11h et je suis déjà là à travailler. « Pouvez-vous m'envoyer deux soldats de confiance pour qu'ils m'aident à servir comme il y a du monde ?» Lui, il me fait « Où est la petite ?» Moi, je l'avais dans la corbeille à pain, là, en cuisine, sur la table. Il l'a prise dans ses bras, il est allé dans le salon et il a dit « Jeunes gens, votre attention. Restez en silence et à votre place. Regardez cette petite. » Elle n'a pas encore 24 heures. Son papa est militaire et la maman est en cuisine qui vous fait à manger. Gare à vous si j'en surprends un qui ne se comporte pas bien. Je le mets en prison. Il avait la petite dans les bras avec tous les soldats autour qui la regardaient. J'ai 75 ans et je travaille encore à faire le foin. Les vaches, je les ai vendues. Je ne pouvais plus les traire, j'ai de l'arthrose aux mains, je ne pouvais plus fermer les poings comme ça. J'en avais 12 de vaches. Il y a 4 ans, j'ai encore gagné une course de 30 km, une épreuve de course à pied organisée à Stropo. J'avais le numéro 138. C'est moi qui ai coupé la ligne d'arrivée. J'ai le diplôme, la coupe avec l'horloge et la médaille. Le dernier accouchement auquel j'ai assisté, oh, il faudrait parler en douzaine d'années. La vie d'autrefois était bien plus misérable qu'aujourd'hui. Moi, je me suis mariée. Ma belle-mère a mis un chaudron de pommes de terre à cuire. On les a épluchées et puis on les a mangées avec du pain. Mais on arrivait à vivre. Ici, c'était un pays de travail. Ici, il n'y avait personne qui demandait l'aumône. Mais vous voulez vraiment savoir combien d'enfants j'ai aidé à naître ? J'en ai fait naître 120.
Alors, toujours dans les entretiens Revelli, donc moi, je vais donner la voix à Anna Giordano. Elle est née en 1909 et l'entretien a été réalisé le 14 janvier 1979. Anna Giordano. Je suis née à Caraglio. Ma famille, père-mère, Catarina de 1904, Andrea de 1906, Lucia de 1907, moi de 1909, Bartolomeo de 1911, Francesca Cicchenetta de 1913, Maria de 1915, Giovanni de 1917, Giovanni de 1920, et en plus, deux frères qui sont morts à peine nés. Cicchinetta et Maria sont mortes quand elles étaient petites. Oui, oui, je me souviens quand elles sont mortes. Cicchinetta est morte quand elle avait 7 ans, de coqueluche. Maria est morte alors qu'elle avait 5 ans. Les vers l'ont étranglée. Nous, on ne savait pas qu'il fallait les faire saigner. Cicchinetta et Maria, je les voyais là, mortes. Elle est morte, voilà. Autrefois, on ne faisait pas tant d'histoires. Voilà, ils mouraient, que faire? Le matin, on les trouvait morts, voilà. Oui, nous pleurions, bien entendu. Mais il y en avait tant. Faisaient aussi partie de notre famille Jot, Giacu et Dreya, les trois frères de mon père. Nous étions métayers à la ferme Nueva, une ferme de 70 journées. Le propriétaire était un monsieur de Cuneo, Vigano. On se battait pour vivre. Oh, pour sûr, une portée pareille, nous étions tant, comme des étourneaux. Métayer, en ce temps, voulait dire avoir une famille derrière qui valait peu. Nous n'avions pas l'argent pour acheter le café. Un peu de seigle et de grains brûlés, sinon de l'orge. Et on faisait ce café-là. Avec l'Hollandais, c'était déjà un luxe, cette soupe de café et de lait au petit-déjeuner. À Grasse, c'était un luxe. À midi, la polenta ou le potage de choux, deux haricots, deux pommes de terre. Le soir, pour le dîner, toujours le lait avec le sel. Quand on est habitué, c'est bon. La famine, ça ne l'a jamais été, mais presque. Pas d'argent. Tous les 8 jours, on tuait une poule et on était 17 à la manger. Notre mère a fait une mauvaise vie. Elle est morte à 42 ans. C'était une personne bien malchanceuse. Quand la grosse guerre est arrivée, mon père est resté seul à faire marcher la ferme de 70 journées. Ses frères étaient au front. Il est resté avec ma mère et les femmes de Jot et de Dreya. Ma mère avait eu beaucoup d'enfants et elle était aussi tout le temps malade. Elle avait du mal à aller de l'avant. Elle était consumée par les enfants, consumée par le travail. Elle se lamentait toujours. Le cœur, le cœur. Nous, l'automne et l'hiver, nous vivions dans l'étable. Les frères dormaient sous les tables et nous, toutes les sœurs, dans un lit, dans les tables. Moi, j'avais déjà 9 ans. C'était en 1917 et je me souviens que ma mère et la femme de Dreya, Natalina, devaient accoucher. Nous n'avions pas de place à l'abri pour toutes les deux. Ma mère a accouché dans une chambre qui était sans plafond. C'était comme une grange, exactement sous le toit. Et il a plu sur les pieds. Me l'a même pas senti. Elle était tellement fatiguée. Elle était faible. Et ainsi, elle a perdu encore un peu de la santé. Si ma maman nous avait tous désirés, ceux qui devaient venir venaient. Et elle prenait tout ce qui venait. Elles avaient peur du péché. C'est ainsi. Sinon, tu allais en enfer. Les prêtres autrefois nous faisaient peur avec cette histoire que tu allais en enfer. Thème et nous, on le vivait déjà sur terre, l'enfer, et le purgatoire, et tout le reste. Parce que moi, j'entendais ma tante et ma mère, paix à son âme, qui se disaient « T'es, moi, je n'en voudrais même plus de cette chose aujourd'hui. Mais comment faire pour les perdre, pour avorter ?» Et alors, toutes les fois où ils arrivaient, elles les prenaient. Mais combien de femmes mouraient autrefois à force d'avoir des enfants ? Elles restaient faibles, il suffisait d'une hémorragie et elles mouraient. Il y avait une de nos voisines qui avait 8 enfants et qui disait « T'es, si je savais que j'attends à nouveau une fille, je la ferais passer. » Parce que sa fille, la plus âgée, la regardait d'un mauvais œil et ne voulait plus qu'elle ait d'autres enfants. Alors cette mère, elle a pris quelque chose pour avorter et l'enfant est mort-né. Et elle, elle est restée pendant 3 ou 4 jours à l'agonie avec cet enfant mort à côté d'elle. Moi, de temps en temps, j'entrais dans l'étable pour voir si elle aussi était morte. Elle perdait tellement de sang et elle me voulait près d'elle. Elle me disait qu'elle ne voulait plus voir sa fille aînée qui était coupable de tout ce désastre. Puis, on l'a enterrée. On les a mis, elle et l'enfant, dans le même cercueil. Au moment de mon passage à l'âge adulte, je ne savais rien. Elle tenait tout caché. J'avais 15 ans. J'ai demandé à l'une et à l'autre, mais personne ne me disait rien. Je l'avais. Je m'arrangeais comme je pouvais. Je n'en suis pas morte, je suis là à le raconter, mais chacune cachait, même entre sœurs. Ah, nous avons vraiment été élevées comme des bêtes. Et nous avions vraiment de la chance d'être en bonne santé. Et d'avoir un père qui a filé droit, qui n'est plus allé chercher une autre femme après. Il nous a tous élevés. Puis la guerre de 1940 est arrivée. Bartholoméo a fait 11 ans entre l'Afrique et le reste, jusqu'à ce qu'il meure à cause de la guerre. Giovanni est allé en Russie. Nous n'avons plus rien su après. Ils les ont tous tués là-bas. Je me souviens quand Giovanni est parti pour la Russie en août 1942, nous sommes allés lui dire au revoir à Bouska. Et il m'a dit « Ne t'inquiète pas de moi. Quitte à mendier, je rentrerai à la maison. » Je me suis mariée en 1948. J'avais déjà 38 ans. Une fois mariée, je suis allée à San Maurizio, sur la colline de Vignolo. J'ai épousé un homme bon. Là-bas, ils avaient une ferme avec 10 journées de champs et de bois. J'ai emménagé avec mon beau-père et ma belle-mère. Puis nous nous sommes toujours aimés. Nous nous sommes vraiment fait une bonne compagnie. Là-haut, à San Maurizio, on ne faisait pas porter aux femmes des charges sur le dos. Nous, les femmes, travaillons au foin, à la campagne, mais on ne portait aucun poids sur le dos. L'année d'après que je me suis mariée, est déjà arrivée Rosa Alba. Et l'année après, en 1950, une autre fille est arrivée. Moi, quand j'ai eu la deuxième fille, je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne la voulais plus. À la montagne, il faut un gars, il faut des bras. Mon beau-père m'a regardée d'un mauvais œil, puis il m'a dit que ma deuxième enfant était belle. Mais sinon, il ne voulait pas comprendre. Il voulait aussi un gars. Puis je me suis rendu compte, je ne pouvais quand même pas la jeter. Quand une fille naissait, on disait, « Tiens, il est né un rebut. » Moi, enfant, j'entendais toujours ces femmes qui disaient, « Je sors de tôle, je vais en prison. Je sors de prison, je vais en tôle. » Moi, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Elles entendaient par là qu'après un enfant, en arrivait un autre dans la foulée. Ma sainte mère me disait comme ça que la fille mariée valait autant qu'une bête. La vache, si elle ne donne pas de lait, si elle ne rapporte rien, on la méprise et on la vend. Ah, ma vie a été difficile. Mais par chance, j'avais un bon caractère. J'étais joyeuse et j'avais une grande force. J'étais la plus joyeuse de la famille et alors j'ai tout supporté. J'ai toujours eu confiance en la vie, envie de rire, de plaisanter. Quand j'étais jeune, j'allais danser. Mon père ne me laissait pas, mais je m'échappais. Il m'envoyait toujours à la bénédiction, alors moi, je sortais de l'église et je courais danser pour 2 ou 3 morceaux, puis à la maison en courant. À San Lorenzo, il y avait le circolo. Couchée dans mon lit, j'entendais la musique du circolo. Et comme je souffrais à rester loin du bal. Et quand on travaillait au blé, il y avait nos aides. Elles étaient jeunes. C'était une force de me trouver au milieu de gens joyeux. Une fois fini d'attacher les gerbes d'épis, fatigués, nous arrivions à la maison. Et nous avions encore l'envie de chanter le soir. Parce que les femmes du vignolo sont des diables. Elles ont le sang comme ça, joyeuses et contentes, toujours prêtes à danser, à chanter. Moi, j'allais au pâturage à Muratio avec les 4 vaches à la corde. Tout le monde m'entendait. « Regarde là-bas, Annette mène les bêtes au pré. » Je chantais toujours pendant le pâturage, jusqu'à ce que je rentre à la maison. »